بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، de vous retrouver sur les ondes de Radio Taqwa après cette longue absence, due aux épreuves que tout un chacun subit dans ce bas monde. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à tous notre passage dans ce bas monde et qu'il nous comble de sa miséricorde ici, bas et dans le-delà. Et désolé pour ce retard, pour des problèmes techniques. Qu'Allah vous couvre de sa miséricorde. Faites dua pour notre frère qui tient le site et la radio Taqwa. Il est éprouvé dans sa santé. Ne l'oubliez pas dans vos dua. Barakallahu fikum. Et si Allah me facilite et que la santé le permet, je ferai, inshallah, les cours un jour sur deux. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai commencé samedi, donc lundi, inshallah, mercredi et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour cette série et celles qui viennent après. Ceci dit, يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Dans le sens du verset, le sens approximatif du verset nous dit ceci: ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, si vous faites triompher la religion d'Allah, il vous fera triompher. Il raffermira vos pas. Donc, cela veut dire que si on veut le triomphe d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire triompher sa religion dans la sincérité, dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Au milieu de ce déluge de fitaines et ce massacre que subit le peuple palestinien, les sunnites de Syrie, les sunnites d'Irak et ainsi de suite, le croyant en général et le salafi en particulier se doit de se cramponner fermement à la religion d'Allah sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons radouanullahi alayhim et ceux qui les suivent à la perfection, car c'est la seule voie et la seule source de sa gloire et de son bonheur dans les deux mondes. Sans la mise en application de ce que lui dicte la voie du salaf, qui est la religion pure et authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, il n'y aura pas de suprématie, ni de gloire, ni de réel bonheur, car c'est l'unique voie pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal et pour obtenir le bonheur dans les deux mondes. Comme il dit ceci dans le sens du verset, dans Surat Tawba, verset 100, Surat le repentir, يقول عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Donc la traduction approximative du sens de ce verset nous dit: il est devancier, il est tout premier croyant parmi ceux qui ont immigré de la Mecque vers Médine, et les auxiliaires, c'est-à-dire leurs alliés qui les ont accueillis à Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis à la perfection, Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour eux comme grâce et rétribution. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeurent éternellement. Voilà la réussite suprême. Et on se doit, en cette période de faiblesse de la communauté et cette période de grande fitaine et cette période de pandémie, on se doit de saisir le sens et la portée du récit qui a été rapporté à l'érudit Cheikh Nasr Din Al-Albani, rahmatullah alayh, qu'Allah le couvre de sa miséricorde et qu'Allah lui accorde le Firdaus al-A'la. Lors d'une assise de Cheikh Nasr Din Al-Albani, qui a eu lieu peut-être il y a plus de 30 ans ou 40 ans, un homme raconte à Cheikh Nasr Din Al-Albani l'histoire d'un prêcheur palestinien qui prêchaient la voie des salafs dans les territoires occupés, et plus particulièrement dans la province de Khan Yunus, qui se trouve dans les territoires de Gaza, à 100 km de Jérusalem. Ce prédicateur du nom de Hassan Abu Shakra a été évidemment éloigné de Palestine. Pourquoi ? C'est très simple. Faire revenir les gens vers la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, vers la voie d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiya, c'est les mettre sur la voie de la suprématie. Est-ce que le son est bon, barakallahu fikoum? Donc, pourquoi il a été éloigné? C'est très simple. Faire revenir les gens vers la voie d'Abu Bakr et de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiya et des nobles compagnons d'Allah alayhim, c'est les mettre sur la voie de la suprématie et du triomphe par l'aide d'Allah. Et on se doit d'être éveillé. Et on se doit de méditer autour de nous, en France et ailleurs, qui subit plus de pression. On se doit d'être éveillé. Et on se doit de méditer autour de nous, en France et ailleurs, qui subit plus de pression. Et à qui on essaye de clouer le bec, comme on dit, avec des lois et des accusations injustes. C'est les salafis, tout simplement. Pourquoi ? Pour barrer la route de la voie authentique de l'islam. Mais Allah fera triompher sa religion, comme nous le dit ce sens du verset dans Surah Tawba, verset 32-33. يقول عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par les mensonges que profèrent leur bouche, alors qu'Allah veut parachever sa lumière. Peu importe les répulsions des mécréants, c'est lui qui a envoyé son messager avec la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion, peu importe les répulsions des polythéistes. Donc, les pressions, les accusations injustes envers la salafia et les salafis, et en particulier les prédicateurs, les demandeurs de science et les savants salafis, sont tout à fait normales. Ça ne peut pas être autrement. Le combat entre le vrai et le faux existera jusqu'à la fin des temps. Pour que se distingue le vrai du faux, le bien du mal, la foi de la mécréance, le monothéisme du polythéisme, la sunna de la bid'a. Et tout ce qui se passe ne doit pas nous démoraliser ou nous rendre pessimistes. Au contraire, ça doit nous rendre plus optimistes encore et ça doit nous motiver et nous booster à nous attacher à notre religion et à œuvrer pour celle-ci. Car tout ce qui se passe, et tout ce que nous subissons, et tout ce qu'on essaye de nous faire subir, arrive, comme l'a annoncé celui qui ne parle pas, qui n'a pas parlé de ses propres passions, le véridique qui n'a dit que la vérité, alayhi salatu wa salam. En réalité, cela doit nous apaiser, et nous réconforter, et nous motiver à nous faire plus d'efforts dans la religion d'Allah et pour la religion d'Allah. Écoutez et méditez ce récit de Hassan Abu Shakra, qui a été rapporté à Sheikh Nasr Dil Albani, rahmatullah alayhi, lors d'une assise. Le rapporteur dit, lors de cette assise à Sheikh Nasr Dil Albani, rahmatullah alayhi, « Ô Sheikh, Hassan Abu Shakra était un prêcheur palestinien à Khan Yunus, en Palestine. » D'eux, il a été éloigné par les juifs. Il m'a dit, avant qu'il n'en soit éloigné, que le gouverneur juif de la région de Khan Yunus lui a dit, « Ô Cheikh Hassan, il y a des gens qui sont haut placés dans l'État juif, qui sont réunis chez moi et qui veulent te rencontrer pour te poser des questions. Mais je veux que tu leur répondes clairement. » Hassan Abu Shakra lui a répondu, Inch'Allah. Et quand Hassan Abu Shakra est rentré dans l'endroit de la rencontre, il a eu peur. Il a eu très peur. Il a dit, j'y trouvais des ministres, des gradés de l'armée. Et il m'a dit, ils m'ont interrogé sur la salafia, cette nouvelle dawa. Hassan Abu Chakra a dit que nous avons peur de dire que nous sommes salafis. Nous disons que nous prêchons les actes des compagnons, car s'il est confirmé qu'on appelle. Et donc, et quand Hassan Abu Chakra est rentré dans l'endroit de la rencontre, il a eu très peur. Il a dit, j'ai trouvé des ministres, des gradés de l'armée. Et il m'a dit, ils m'ont interrogé sur la salafia, cette nouvelle dawa. Hassan Abu Chakra a dit que nous avons peur de dire que nous sommes salafis. Nous disons que nous prêchons les actes des compagnons. Car s'il est confirmé qu'on appelle à la salafia, la personne est mise directement en prison. À la fin de la discussion, un parmi ces gradés juifs s'est mis en colère. Il m'a dit, prends n'importe quelle da'wa. Tu as la da'wa d'Ikhwan, prêche-la. Tu as la da'wa d'établir, prêche-la. Mais cette salafia qui va faire revenir les gens à la voie sur laquelle était Abu Bakr et Omar, comme ça, il a dit mot par mot, on ne vous laissera pas faire cela. On ne vous laissera pas faire cela. Combien la soirée d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui? Quelqu'un de l'assise a dit, qui a dit cela? Le rapporteur lui répond, un gradé de l'armée. Cheikh Nasser Dil Albani, rahmatullah alayh, dit, ça c'est une vérité que les kuffars connaissent dernièrement. C'est pour ça, dit Cheikh rahmatullah alayh, ô salafi, attendez et patientez, l'histoire se répète. Attendez et patientez, l'histoire se répète. Et il a cité le hadith d'Iguraba. Le hadith des étrangers, ce hadith qui sera le pivot de cette série, incha'Allah, l'histoire se répète. Cheikh Nasser Dil Albani, rahmatullah, a dit, Touba lil ghuraba. Qui sont les ghuraba? C'est ceux qui réforment bien ce que les gens ont endommagé de ma sunna, après moi. Et il a cité une deuxième version du hadith, qui sont les ghuraba? Ce sont peu de gens vertueux au milieu de beaucoup de gens. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent, c'est-à-dire ceux qui les suivent dans leur voie. Ceux qui sont en divergence avec eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent dans leur voie. Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi, de dire cette description du ghuraba et l'autre avant, c'est-à-dire les deux descriptions dans les deux hadiths, c'est-à-dire la première description, ceux qui réforment bien ce que les gens ont endommagé de ma sunna. La deuxième description, ce sont peu de gens vertueux au milieu de beaucoup de gens qui sont en divergence avec eux. Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi, dit ces deux descriptions correspondent-ils aux Ikhwan? Il dit non. Est-ce qu'ils correspondent à Hizb Tahrir? Il dit non. Est-ce qu'ils correspondent au Tablir? Il dit non. Un troupeau de moutons qu'on conduit et qui ne sait pas vers où on le conduit. Fin de citation. Je vous invite à méditer les deux descriptions dans les deux versions de ce hadith. Ceux qui réforment bien ce que les gens ont endommagé de ma sunna. Par Allah, est-ce que cela peut être réalisé par les Ikhwan qui cherchent à s'accaparer du pouvoir là où ils se trouvent et qui ont fait faillite au niveau politique et qui ont englouti leur voix dans les innovations? Ou cela peut être réalisé par Tablir, des ignorants qu'on conduit comme on conduit une vache vers l'abattoir et qui vivent avec des histoires à dormir debout dans des villages, dans les nuages? Les deux descriptions, ce sont peu de gens vertueux au milieu d'une grande masse qui sont en divergence avec eux. La deuxième description, ce sont peu de gens vertueux au milieu d'une grande masse qui sont en divergence avec eux. Est-ce que la vertuosité existe chez des gens qui disent « nous innovons pour la religion et non pas dans la religion » qui sont l'établir? Quant à ceux qui ont fait faillite dans la politique et englouti leur voix dans la bid'a, ils disent « une bid'a qui nous réunit est mieux qu'une sunna qui nous sépare. Et une association qui nous réunit est mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Voilà pourquoi les ennemis d'Allah aiment les résidents de l'islam. La tendance tablire fit vivre les adeptes, ses adeptes, dans des contes de fées, et celle des Ikhwan les mène vers l'anarchie, vers les bains de sang, et le printemps arabe, comme ils disent, n'est pas loin de nous. Les deux descriptions dans le hadith ne correspondent qu'aux savants et aux demandeurs de science, et aux prêcheurs de la voie salafie, et à ceux qui suivent la voie des salafs. Il n'y a qu'une voie, qu'une tendance sur terre depuis l'aube de l'islam, et il n'y a qu'une voie agréée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis l'aube de l'islam. Et cette voie, avec ses disciples, œuvre pour orienter les disciples de cette voie, dit salaf, œuvre pour orienter et ramener les gens vers la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et cela doit nous suffire et nous combler de bonheur et nous motiver à se cramponner encore plus à la salafia qui est l'islam authentique sur lequel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection. Nous devons louer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir comme il se doit de nous avoir guidés et fait connaître la voie qu'il aime et qu'il agrée. Peu importe ce que dit la masse, peu importe ce que propagent les médias, peu importe ce que décrète l'Occident comme loi contre cette voie. Qu'on ne se trompe pas, c'est la seule voie du triomphe et de la suprématie. Méditez comment ce gradé de l'armée juive a dit à Hassan Abu Shakra, on ne vous laissera pas prêcher cette voie qui mène vers la voie d'Abu Bakr et d'Omar. Et il l'a orienté vers les voies des passions, vers les voies de l'anarchie, vers les voies de l'égarement. Et vu que c'est les sionistes qui dictent à l'Amérique, à l'Occident, comment ils doivent être avec l'islam et avec les musulmans partout dans le monde et surtout comment étouffer la voie de la vérité de l'islam et de l'authenticité de l'islam, tu vois et tu entends apparaître ces lois qui sont en complète contradiction avec la prétendue liberté et la prétendue démocratie de l'Occident. Et méditer aussi comment les innovateurs et les divergents de toute tendance jouent le jeu des ennemis d'Allah. Au mois d'août dernier, il y a eu un congrès de 25 institutions musulmanes, dont le thème était les exagérateurs du tabdir et de la réfutation. Et ce congrès, sa cible et ses accusations étaient orientées sur ce qu'ils ont appelé Al-Jamia et Al-Madkhaliya, c'est-à-dire la Salafia. Pourquoi? Car ces deux hommes, Cheikh Mohamed Amal Jami, ainsi que Cheikh Rabi Al-Madkhali, ont dévoilé la voie des Qutbi, ont dévoilé la voie des Ikhwan, et par la grâce d'Allah, au point que certains États comme l'Arabie et d'autres ont déclaré la secte des Ikhwan comme groupe terroriste. Donc leur cri correspond à la douleur des coups qu'ils ont subis. Et un peu avant, une chaîne de télé saoudienne a catalogué Cheikh Nasser Din Albani comme leader du takfir. Quel gros mensonge! Et, Inch'Allah, la série qui va suivre celle-ci sera consacrée à la réfutation de ces grosses ambiguïtés, Inch'Allah. Et qu'on saisisse bien ce qu'il y a dans le hadith des Ghuraba. Beaucoup de nos frères se plaignent du petit nombre de salafis et depuis quand le nombre était un signe de vérité. Ce qu'il faut prendre en considération si la vérité et non pas le nombre. Comme Abdullah ibn Mas'ud a dit, le jama'a, le groupe, c'est toi, seul si tu es sur la vérité. Et plus que ça, la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant le Ghuraba, il a dit « Peu de gens vertueux au milieu de beaucoup de gens qui sont en divergence avec eux. » Il est aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am, le bétail, verset 116. « يقول عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. » Le sens approximatif du sens du verset nous dit ceci. Si tu oublies à la majeure partie des habitants de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne font que conjecturer et présumer. Et comme un certain salaf a dit, ne te fais pas avoir par le grand nombre de gens et ne te sens pas isolé dans le petit nombre. Ceci dit, après cette introduction, pour débuter cette série de cours, nous allons nous pencher d'abord sur ce hadith d'Iguraba. Dans le hadith rapporté par Abu Amr Dani et par l'Ajurri, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah a dit, l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Touba. Un grand bien. Touba aux étrangers. On a dit, qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il a dit, des gens qui sont bien réformés quand les gens sont mauvais. Et dans une autre version, ce sont des gens qui réforment bien ce que les gens ont endommagé. Muslim, rahimahullah, rapporte de Abdullah ibn Omar, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a commencé étranger. Et il redeviendra étranger comme il a commencé. Et il reviendra et se réunira dans les deux mosquées, c'est-à-dire à la Mecque et à Médine. Tu vois, frère en Allah, azzawajal, et sur en Allah, subhanahu wa ta'ala, pourquoi les mécréants ainsi que les Hizbis s'acharnent sur l'Arabie Saoudite et qui essayent pour l'influencer, pour la détourner de la voie des pieux prédécesseurs de Allah alayhim. Et dans le hadith authentique rapporte l'imam Ahmed ainsi que l'Ajouri et d'autres, Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit, radiyallahu anhu arda, le messager d'Allah a dit, un jour, on hésitions avec lui, Touba aux étrangers. On a dit, qui sont-ils? Il a dit, peu de gens vertueux, au milieu de beaucoup de gens du mal, ceux qui les suivent sont moins nombreux que ceux qui leur désobéissent et qui sont en divergence avec eux. Ce hadith, comme l'ont clarifié les savants, nous décrit la ghurba, l'isolement, contemporain, comme l'isolement qui a eu lieu au début de l'islam, pour ne pas se sentir isolé, pour ne pas désespérer, pour ne pas tomber dans le pessimisme, et pour ne pas broyer du noir, vu que celui qui se cramponne à la voix de ses pieux prédécesseurs, wallah alayhim, est isolé, et se sent étranger, et se sent isolé au milieu des siens, déjà, et dans la société dans laquelle il évolue. Et cela est tout à fait normal et prouve la véracité de la prophétie du messager alayhi salatu wassalam. Il prouve que ce messager alayhi salatu wassalam est le véridique, qui n'a dit que la vérité et qui n'a jamais parlé de ses propres passions, salawatu rabbi wa salamu alayhi, mais que c'est une révélation qu'il a reçue de son souverain, subhanahu wa ta'ala. Et les choses arrivent comme il les a annoncées. Vous voyez avec vos propres yeux, et vous entendez avec vos propres oreilles, que le malheur des musulmans et leur mépris ne vient pas que des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme vous le remarquez. Ou ne vient pas tout simplement des imams de l'égarement, ou tout simplement de leur famille. Mais cela concerne aussi les voies de l'éducation et les systèmes d'éducation, ainsi que les médias qui œuvrent tous pour dénaturer et dépouiller le musulman de sa propre identité, et cela à travers le monde entier. Le monde musulman, en Occident, à l'Est et à l'Ouest de la planète, au Nord et au Sud. Ceux qui œuvrent pour faiblir les musulmans et surtout faire faiblir la voix des salafs sont nombreux, parmi les musulmans, et aussi parmi le kuffar et les ennemis d'Allah. C'est pour ça qu'il est de notre devoir, si Allah nous a honorés et nous a comblés par la guidée et la connaissance de la voix des salafs, Nous devons louer Allah matin et soir et ne pas désespérer. Et nous devons méditer la situation de nos frères qui sont dans la débauche, qui sont dans les péchés, comment ils sont devenus des esclaves et enchaînés, et des victimes de ces fausses éducations qui les a attachés avec ce bas monde, qui les a attachés à ce bas monde, et qui leur veut la mécréance, la désobéissance, les péchés, et comment les imams de l'égarement ont divisé la communauté en parties, chaque partie est content de ce qui est là, et ils les ont utilisés. C'est-à-dire, ils ont utilisé les musulmans pour combattre la vérité, en rejetant celle-ci. Les divinations ont été altérées par ces faux imams, au point que le nom de la aqida, la croyance, le credo, qui est la base de tout bien, a été déformé et remplacé par la liberté de la pensée, la liberté d'expression. Une grande partie de la communauté sont devenus, une grande partie de la communauté, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala couvert de sa miséricorde, sont devenus des marionnettes qu'on tourne comme on veut, que ces imams de l'égarement tournent comme ils veulent. Ils ont changé le mieux pour le vil et ils courent derrière l'Occident et derrière la prétendue démocratie et vers la prétendue liberté d'expression et derrière la prétendue liberté d'expression et de pensée et derrière la soi-disant liberté de la femme et ainsi de suite. Allahu musta'an. Donc le hadith des étrangers est un grand et noble hadith plein de leçons vu l'époque de grande fitane que nous vivons. Ce hadith prouve la véracité du véridique qui n'a dit que la vérité. Le messager d'Allah nous a annoncé une comparaison entre le début de l'islam et la fin de l'islam. L'islam a commencé étranger, il redeviendra étranger comme il a commencé. Et celui qui revient à l'histoire et au début de la prophétie remarque que le hadith s'est réalisé et se réalise de nos jours, comme cela a été annoncé par le messager d'Allah. Ce hadith est un des emblèmes et une des grandes preuves irréfutables de la prophétie du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager d'Allah a été envoyé, il a été envoyé dans une société de polythéistes où tout a été adoré en dehors d'Allah. Les pierres ont été adorées, comme cela est rapporté dans les livres de l'histoire et de biographie. Pendant la période pré-islamique, l'homme partait en voyage et prenait avec lui 4 pierres. Il utilise 3 pour former un brasero pour cuire sa nourriture, et la 4e, il s'oriente vers elle et lui vaut le culte. Et parmi la bassesse dans laquelle ils étaient tombés à cette époque, l'homme fabriquait au début de sa journée sa divinité avec des dattes, et à la fin de la journée, il l'a mangée. Cela prouve le bas-fond de la pensée humaine de cette époque. Et tous, vous connaissez les idoles qui ont été adorées en dehors d'Allah. Lat, Al-Uzza, Manat, Wud, Suwa, Yaghout, Nasr. Ces idoles étaient adorées par le peuple de Nuh et leur nom est passé chez les Arabes. Et vous savez tous le combat que le messager d'Allah a mené contre les idoles qui étaient autour de la Kaaba et qui étaient au nombre de 360 idoles. Toutes s'adoraient en dehors d'Allah. Les Arabes ont adoré les astres. Ils ont adoré le djinn. Ils ont adoré les shayatines. Ils ont adoré les anges, le soleil, la lune. Tout ceci est confirmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité des exemples dans le noble Coran. Pour le soleil, l'adoration de celui-ci par la reine de Saba et de son peuple qui était au Yémen. Et le Yémen fait partie de la péninsule arabe. Ce sont des purs arabes. La force mondiale de cette époque était personnalisée par les Romains. Les Perses occupaient la partie est et les Romains à la partie ouest. Les Perses étaient des adorateurs du feu. Quant aux Romains, la grande majorité adorait Isa, Jésus. Et ce sont les deux puissances qui existent, qui existaient à cette époque. L'endroit où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé n'avait aucune caractéristique qui inciterait à l'occuper, à l'exception de la maison d'Allah azza wa jal, que Ibrahim alayhi salatu salam et son fils y ont construit par l'ordre d'Allah. La Mecque était un désert entouré de montagnes sans aucune végétation, donc il n'y avait rien qui pouvait inciter à la coloniser ou à la visiter. Les Arabes étaient connus par deux voyages commerciaux dans l'année. Un pendant l'été qui les amenait vers Cham, le nord de l'Arabie. Cham, la Jordanie, hein, la Palestine et ainsi de suite. Et un pendant l'hiver qui les amenait vers le Yémen. Comme le souverain nous l'a cité dans Sourate Quraysh. Donc la Mecque était dépourvue de tout ce qui pouvait motiver à la coloniser ou à s'y installer, sauf le peu d'élévation de dromadaires comme ceci est relaté dans l'histoire. Dans cette atmosphère claire de la ghurba et de l'isolement, apparaît un homme qui a grandi orphelin, qui n'a aucune puissance et aucun allié, sauf Allah qui l'a envoyé pour annoncer aux communautés quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas pour leur plaire. Et c'est cela qu'a désigné le messager d'Allah dans le hadith d'Iyad ibn Himar, rapporté par Muslim rahimahullah, où il dit qu'Allah a plus que abhorré, c'est-à-dire a plus que détesté les gens de la terre, les Arabes et les non-Arabes, sauf un reste des gens du livre. Et ces gens du livre étaient au nombre, hein, qui se comptaient sur les doigts d'une main à cette époque. Dans la péninsule arabique, quatre étaient connus être sur une religion authentique ou sur le monothéisme. Allah a abhorré, a plus que détesté les gens de la terre. Pourquoi ? Il les a plus que détestés pour leur polythéisme, leur déviance. C'est ainsi que l'a annoncé celui qui ne parle pas de ses propres passions. Les non-arabes, les Perses, les Romains, ainsi que les Arabes, les habitants de la péninsule arabe, toutes ces communautés étaient dans un total déshonneur et dans un total égarement et dans une grande débauche. Ils adoraient des divinités qu'ils ont choisies sous l'influence et l'orientation d'Iblis. Et cela est relaté dans les annales de l'histoire et relaté dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Celui qui revient vers l'histoire des Romains et des Perses et des Arabes, il sera en face d'une débauche, une phase d'une mécréance et une phase de toute forme de mal et d'injustice qui n'ont pas d'égal. Allah nous a cité des aspects du mal de cette époque, comme dans Sourate l'obscurcissement, le sens du verset 8 où il est dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante pourquoi il a été tué, ils étaient ainsi, ils enterraient leur fille vivante parce que c'était un déshonneur pour eux d'avoir des filles. Et comme Allah nous l'a annoncé aussi dans le sens du verset qui dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Donc, regardez ce qu'il. Hein, le sens du verset nous dit ceci: lorsqu'on annonce à l'un de la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, réduit au mutisme par l'intensité de la triste, de la tristesse et de la rage qui l'envahissent. Il fuit les gens en raison du malheur dont cette nouvelle l'afflige. Donc, doit-il garder cette fille en la méprisant ou l'enfuir dans la terre? combien ils m'ont fait leur jugement. Donc vous voyez dans quelle situation ils étaient et au milieu de qui le messager d'Allah a été envoyé. Ils sont tombés dans un groupe profond du mal, dans leurs pensées, dans leurs œuvres. Quant à les usures et les intérêts, ne te pose pas de questions sur leur horrible situation et l'horrible situation de cette pratique. Quant à l'adultère, il existait à cette époque des maisons closes spécifiques à cela, qui se reconnaissent par des drapeaux, à l'instar des quartiers de prostitution dans le 18e à Paris ou à Bruxelles, dans la rue Brabant ou dans les cafés shop de Hollande et ainsi de suite. Quant aux Romains et aux Perses, ils sont arrivés à la fin du gouffre, du mal. Et ceci, cette débauche te montre que la débauche qui existe maintenant, il a été hérité par qui? Par les gens de la période pré-islamique, par les mécréants d'avant. Donc, chaque génération a quelqu'un, chaque tendance a de qui il hérite. Sois heureux que tu sois l'héritier de la voix des nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Quant aux Romains et aux Perses, ils sont arrivés à la fin du gouffre du mal et de la débauche, dans les croyances, dans le comportement. Ils ne posent pas de questions sur l'adultère, comment il était propagé dans leur société. Tout ce qui était interdit était propagé dans ces sociétés. D'où la parole du messager qu'Allah a abhorré les gens de la terre, les arabes et les non-arabes, sauf un peu qui restent des gens du livre. Et regarde le mal et la débauche qui est pratiquée en Occident. Et comment on appelle les musulmans à s'y soumettre? C'est le prétexte de l'intégration et de l'acceptation de la prétendue démocratie et de la prétendue liberté, plutôt le libertinage. Donc, l'ghurba, l'isolement, l'étrangeté, est très clair à l'époque de l'envoi du messager, alayhi salam, au milieu de ces deux grandes puissances qui sont Rome et Perse, qui avaient des armées, des moyens, comme aujourd'hui, les puissances européennes, américaines, chinoises et autres. Allah a envoyé ce messager contre lequel se sont révoltés et acharnés ses proches en premier, et puis les autres communautés extérieures. Et malgré cela, Allah a fait triompher et élever l'étendard de sa religion, malgré les répulsions des polythéistes de tous bords. Donc celui qui lit l'histoire de cette époque et qui l'étudie comme il se doit, pour prendre des leçons, il voit clairement l'isolement dans le début de l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a prêché au début durant 3 années, les 3 premières années, et il n'y a eu qu'une 40aine de personnes parmi les jeunes, les pauvres et les esclaves qui ont répondu à sa da'wah. Ce petit nombre, 40 personnes au bout de 3 ans, ce petit nombre à la loupe des statistiques et des analyses nous dit que la da'wah était en danger. Ce petit nombre qui n'est constitué que par les faibles, les jeunes, les esclaves qui n'ont aucun pouvoir et aucun moyen, nous donne l'image de cet isolement clair, de cette ghurba claire au début de la da'wah de notre messager alayhi salatu wassalam. Dans la société où il a été envoyé, alayhi salatu wassalam, les gens jouissaient de ce qu'on appelle aujourd'hui en Occident la liberté générale, ou plutôt le libertinage. Ils avaient à cette époque des clubs d'adultère et des clubs d'alcool et autres, à l'instar de ce que connaît l'Occident aujourd'hui. Les nightclubs gays, les nightclubs green, les clubs échangistes, et j'en passe. Et donc, ils avaient la liberté d'activité. Tous ces débauchés à l'époque où Mohammed a été envoyé avaient la liberté d'activité, comme aujourd'hui, nos contemporains en Occident. Ils avaient la liberté d'activité comme tous les débauchés l'ont aujourd'hui, tant que leur activité ne sont pas un danger pour l'ordre général comme ils prétendent. Alors que le musulman, on le confine et on l'accule dans un endroit actuellement, et surtout celui qui veut se cramponner à sa religion, hein, comme il se doit, et selon la voie du pieux prédécesseur, alors là, c'est les barrages, les obstacles, les lois contre lui. Donc cette société arabe pré-islamique, comme dans les sociétés occidentales aujourd'hui, les personnes peuvent faire toutes choses qui sont en divergence avec la moralité et le bon comportement, qui sont en contradiction avec la soumission à Allah et en divergence avec la raison saine et la nature innée chez l'être humain. Et notre messager et ses disciples à cette époque n'avaient pas le droit à la liberté de pratiquer leur religion comme notre situation aujourd'hui en France et ailleurs. C'est-à-dire de pratiquer la réalité, la religion véridique qui est la salafia. Les homos ouvrent des mosquées pour y prier. Les femmes sont encouragées pour prendre la imama des mosquées et faire des khutbas, et on s'acharne sur la salafia et les salafis, et le salafi qui veut s'attacher à la voix d'Abou Bakr et d'Omar, et on lui met ses pressions, des pressions, que ce soit au niveau de ses enfants, l'école, etc., etc. Et j'en passe. Vous connaissez le tableau. Donc, en Occident, l'Occident, comme vous le savez, est arrivé à officialiser les mariages hommes entre hommes et femmes entre femmes, et il leur a même donné le droit d'adoption des enfants, et plus grave, dans les programmes de la maternelle et du primaire, on enseigne aux petits et aux petites qu'ils peuvent choisir d'être un mâle ou une femelle. Wallahu al-musta'an. Et on interdit aux filles de moins de 18 ans de porter une tenue pudique qui est concrétisée par le hijab. Combien d'écoles d'arabes et d'écoles coraniques, d'écoles de Coran ont été fermées, et combien de moussallahs ont été fermés sous prétexte de l'intégrisme, appelé aujourd'hui le séparatisme, etc. Donc toute forme de débauche et d'appel à la débauche à pignon sur rue dans l'Occident et dans beaucoup de pays, et les barrières et les barrages se dressent contre la da'wah de l'islam véridique, sous prétexte de l'intégrisme ou du séparatisme. Donc rien n'a changé. L'histoire se répète. Donc rien n'a changé. Le messager, toutes les communautés se sont acharnées sur sa da'wah. Ses proches, et se sont acharnés sur ses disciples. Et à leur tête, ses proches. Ils ont tout mis en œuvre pour le salir et salir sa da'wah. Et combien la soirée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Méditez, regardez comment on s'acharne sur la voie de la vérité aujourd'hui. Ils ont dit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est un sorcier, alors qu'il savait qu'il n'a jamais pratiqué la sorcellerie. Ils ont dit que c'est un devin, alors qu'il savait qu'il ne l'était pas. Et de nos jours, les expressions ont changé. Les prédicateurs des Ghuraba, on les appelle des gourous. Et on dit des Ghuraba que ce sont des terroristes, des assoiffés de sang, des assassins, des arriérés, des extrémistes, des wahhabites, des fondamentalistes, et de nos jours, des séparatistes. Le lexique est long. Et l'histoire se répète. Ce ne sont que les lieux et les expressions qui changent. Mais les thèmes sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas propagé comme mensonge et comme calomnie à l'égard de notre messager, alayhi salam, et de ses disciples? Pourquoi tout cela? Ils veulent éteindre et arrêter ce qu'a ramené Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme vérité. et se sont réunis entre eux, et se sont étonnés de sa da'wa, comme cela est cité dans le Coran. قال عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. La traduction du sens de ce verset nous dit ceci: cherche-t-il à réduire les divinités à une seule? Voilà qui est bien étrange. Saad, verset 5. Le messager leur dit: adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Et ils trouvent cela étrange, car ils adorent et vouent le culte à des divinités différentes. Allah nous a cité le récit de Ibrahim alayhissalam avec son peuple, quand il a questionné son peuple sur les statues qu'ils adorent en dehors d'Allah, dans Sourate les Poètes, versets 72-73, قال عز وجل قال هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون. La traduction approximative nous dit ceci: vous entendent-ils lorsque vous les invoquez? Vous sont-ils utiles? Eux peuvent-ils vous nuire? Ce qui est obligatoire, c'est qu'ils répondent à sa question, car celle-ci est claire. Il leur a dit, comme il est dit dans le verset, ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم تدعونهم وينفعون ويضرون. Donc la question était claire. Il leur a posé la question, comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: qu'adorez-vous? Ils ont dit: nous adorons des idoles auxquelles nous vouons un culte assidu. Il leur dit: vous entendent-ils lorsque vous les invoquez? Vous sont-ils utiles ou peuvent-ils vous nuire? Donc la réponse doit être oui ou non. Mais son peuple a fui la réponse. Et ils ont répondu comme il est cité dans le Coran: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. La traduction approximative de leur réponse dans le sens du verset, le sens approximatif du sens du verset: non, mais c'est ainsi que nous avons trouvé nos ancêtres faire. Donc ils ont suivi leurs ancêtres. Ce qui était obligatoire pour eux, c'est de donner une réponse, une vraie réponse, car il leur a posé une question de quelqu'un doué de raison saine, et de quelqu'un d'intelligent, et il leur a dit: qu'adorez-vous? Ils ont dit: des idoles auxquelles nous vouons un culte assidu. Et il leur a dit: est-ce qu'ils vous entendent quand vous les invoquez? Ou vous sont-ils utiles? Ou peuvent-elles vous nuire? Ce qui veut dire, quand vous demandez leur secours et leur aide, est-ce qu'ils vous procurent le bien, la subsistance? Est-ce qu'ils vous guérissent? Est-ce qu'ils donnent la mort ou la vie? Est-ce qu'ils créent? Et comme réponse à sa question, ils ont dit: ainsi nous avons trouvé nos ancêtres faire. Ceci est une réponse qui n'est pas convaincante, et dans la terminologie du débat, ceci est considéré comme une esquive. Je te pose la question: qui tu es? Tu m'envoies vers quelque chose qui n'a rien à voir avec la question. Tout ceci, ils l'ont fait car s'ils donnaient la bonne réponse, ils accompliraient la preuve contre eux. Le peuple d'Ibrahim, si il avait donné la bonne réponse, il aurait accompli la preuve contre eux, ils auraient accompli la preuve contre eux-mêmes. À la question: est-ce qu'ils vous entendent? S'ils avaient répondu oui, il leur dira où sont leurs oreilles, alors que c'est des pierres. Et comme ils sont devant eux, ils seraient dévoilés, comme dans l'autre verset. Que leur a-t-il dit en réponse à leur question, quand il a cassé les statues? Hein? Il leur a dit, comme il est cité dans le Coran, en réponse à leur question: قال عز وجل قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. La traduction approximative de leur question, c'était dans le Coran. Ils lui demandèrent: est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, ô Ibrahim? Il répondit: c'est la plus grande que voici qu'il a fait interrogez-les donc si toutefois ils peuvent parler. Cela veut dire demander à la plus grande statue s'il parle. Et quand il leur a posé la question, c'est les statues leur sont utiles. Et s'ils avaient répondu oui, il leur dira, est-ce qu'ils descendent la pluie du ciel? Est-ce qu'ils donnent la subsistance? Comment vous sont-ils utiles? Car toute personne qui prétend quelque chose se doit de ramener la preuve sur ce qu'il prétend. Et s'il ne donne pas de preuve, cela prouve que c'est un menteur. C'est pour cela que le peuple d'Ibrahim ont trouvé que la meilleure réponse, c'est cette esquive. Nous avons trouvé nos ancêtres faire cela. Et nous les suivons. Donc les mécréants de Quraysh, quand ils ont calomnié le prophète sallallahu alayhi wa sallam et accusé de différentes accusations, peuvent-ils ramener une preuve? Bien sûr que non. Eux-mêmes, ils savent avec certitude qu'ils sont des menteurs dans leurs accusations, car chaque accusation a des signes qui la prouvent. Subhanallah, combien la soirée d'aujourd'hui est similaire à celle d'hier? Comment on critique et accuse à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, dans le monde mécréant et musulman al-Ghuraba, les disciples des salafs? Et c'est la sunna d'Allah que nul ne peut changer. Et ces accusations, comme leurs ancêtres ne peuvent pas. Et ces accusateurs contemporains, comme leurs ancêtres d'avant, ne peuvent pas accomplir des preuves sur leurs accusations et sur leurs calomnies. Quraysh, unanime que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est intègre, digne de confiance, véridique. Ils lui ont jamais trouvé ou prouvé un mensonge durant toute sa vie. Donc l'accusation de menteur ou de devin ne lui correspond pas. Car le devin a besoin de certaines sciences et d'un certain aspect. Et sur la face du devin et du sourcil se lit le mal, le déshonneur, le mensonge. Après qu'il y met son mensonge, il dit une vérité. Et ceci est contradictoire avec la personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le devin ainsi que le sorcier, sur leur face, les signes de la malédiction se lisent, alors que la face de Muhammad est une face qui est éclatante de lumière, de loin. Une personne qui était mécréante à cette époque s'est exprimée ainsi quand il a vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de sa rentrée, lors de sa hijra, et lors de sa rentrée à Médine. Il a dit, ce visage n'est pas le visage d'un menteur. Regarde comment il savait distinguer avec les signes extérieurs de la personne et l'aspect du visage, il savait distinguer. Dans le concret, l'islam, celui qui oublie Allah, qui préserve les prières, qui préserve les droits d'Allah, qui met en application ses ordres, il s'abstient de ses interdits, et qui est véridique, cela apparaît sur sa face et dans ses actes. Il en est de même pour le pervers, le débauché, le menteur. L'essentiel, c'est que la rourba, l'isolement de l'islam, avant l'envoi de Mohammed al-Islam, était très clair. Le monothéisme ne s'accomplissait pas dans les lieux de culte du nord de l'Arabie Cham sous l'occupation romaine. Il en est de même pour les lieux du culte de Perse. Et aussi, dans les lieux du culte des Arabes, le monothéisme ne s'accomplissait pas non plus. La aqida authentique n'existait pas chez tous ces peuples. Quant aux lois avec lesquelles jugeaient les juges perses et romains, elles n'étaient pas basées sur la soumission à Allah, comme dans l'Occident d'aujourd'hui. Dans les lois des Arabes de cette période pré-islamique, il n'y avait pas de soumission à Allah. Ce ne sont que des traditions tribales. Donc, dans les lois de cette époque, la soumission et l'obéissance à Allah n'existaient pas. Les gouverneurs de cette époque étaient des tawarites ou des similaires de tawarites. Donc la rourba est claire, l'isolement est clair à cette époque. Et les attaques contre l'islam étaient fortes et sévères. Rappelez-vous l'histoire de la bataille de Mu'ta. Et lisez celle, l'histoire de la bataille de Tabouk. Et ce qui est arrivé aux compagnons avec les Perses lors de la bataille de l'Qadisiyya et autres. L'isolement et l'arrobat est très clair à cette époque. Et à notre époque aussi, on vit cet isolement et cette étrangeté. Inch'Allah, nous allons arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum jazakumullahu khairan.